Lowe's knows that free makes everything better. That's why our rewards members get free standard shipping on the things they need and want, starting at Silver Key status every day. Savings for rewards members add up fast, so why wait? Join for free today. Lowe's, we help, you save. Not available in Alaska and Hawaii. Exclusions and more terms apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/shipping terms. Subject to change.
Bon lundi pour ceux qui sont en direct, saison 6, épisode 18, l'Italie. Vous êtes à l'écoute du podcast Le Paddock Podcast F1. Mon nom est Pierre Doucette, accompagné de Jean-Michel Tremblay. Salut Jean-Mich!
Hey, salut, bon lundi soir!
Hey, bon lundi pour ceux qui sont en vidéo. Il est magané un peu, là, mais j'ai sorti mon chandail orange de Max Verstappen pour sa fin de semaine incroyable en Italie. Grosse surprise en fin de semaine. On va revenir d'ailleurs sur le Grand Prix de Monza qui nous a épatés en saluant Marie-Ève qui est la première à nous dire bonsoir ce soir. Bonsoir Marie-Ève, merci d'être là. On va revenir sur le Grand Prix d'Italie, bien sûr. On va reparler d'une tonne de petites nouvelles de F1, dont Monaco, Colton Herta, puis un peu ce que grouiller autour de la F1 comme on fait à l'habitude. Et je vous invite à rester à l'écoute parce qu'on va lancer la prévente des casquettes et des tuques du paddock. Donc, on va vous dévoiler l'image et je vous invite à surveiller nos réseaux sociaux mardi midi, donc le 9 septembre, aux alentours de midi. Je vais lancer le Forms pour précommander les articles. Je vous dévoile les prix et bien sûr le visuel tout à l'heure avec Jean-Michel. Jean-Mich, passez une bonne semaine.
Hein, mais ça, très belle semaine, puis très belle fin de semaine surtout. On a eu un méchant bon Grand Prix quand même. J'ai dit, écoute, je vais ressortir. Lewis en a eu une bonne, mais sa pénalité, ça aurait pu être bien mieux, là. Mais ouais, en fin de semaine, je l'ai senti revigoré par les tifosi, par l'amour des tifosi.
ouais, c'était le fun de voir Hamilton en fin de semaine. Oui, on va parler de Ferrari. Oui, on va parler de McLaren et bien sûr de Max Verstappen. C'est pas mal eux qui ont attiré l'attention. Carlos Sainz également. Il y a beaucoup de stock à jaser. Mais tout d'abord, on veut saluer Opéra, Micro Brasserie et Pizzeria. Ce soir, c'est ça, hein? C'est la Necronomica. Con, hein? C'est ça.
Ouais,
c'est avec un band, c'est un band justement de musique, puis elle est incroyable. C'est une 6,66. Clin d'œil. Dry Stout à la Camry. Je trouvais que ça fitait parce que on parlait justement avant le podcast que c'était le retour un petit peu là, des téléséries. Le football a recommencé hier. T'sais, on s'en va tranquillement, pas vite, vers l'automne. Ouais. Je sais qu'on est début septembre, puis il y a encore quelques 20 degrés, puis des belles journées quand même, le fun. Mais là, la fête du travail, c'était la semaine passée. Là, je pense qu'on est dans le bain pour vrai. Ouais. Les téléromans, ça revient.
La rentrée scolaire.
Oui, exact.
Là. Fait que là, on a vraiment les camps d'entraînement, hockey.
Exact.
On s'en va par là.
Oh oui, fait que je me suis dit, tu sais, noir, ça fait plus automne, ça fait un peu plus hiver. Fait que c'était un petit peu le clin d'œil que j'avais. Puis ça me tentait de me réchauffer l'intérieur un peu, puisque l'autre option, c'était la nano IPA. Puis là, j'étais là, on n'a pas eu une journée assez chaude pour ça. Fait que de là, mon choix pour cette bière noire excellente de microbrasserie, Opéra et Pizzeria. Je vous invite à la shop d'ailleurs. Vous pouvez faire des deals sur les bières. OD de retour, oui, Francis. Aïe, aïe, aïe. J'ai écouté la première hier. J'ai écouté la quotidienne tantôt. Je ne me partirai pas un podcast sur OD, là, mais ouïouïouï. Juste vous dire, il y a une fille, elle ne savait pas c'était quoi un électricien. C'est ça. Fait que...
Puis y en a pour les gens en audio, vous ne voyez pas ma réaction, là, mais...
Elle est coach de yoga et pilates et elle s'appelle Marimé avec un Y.
Tout s'explique.
Elle fait juste jouer dans les cheveux aussi. En tout cas, bref, je décollerai pas sur OD, je vais en avoir quasiment pour une heure. Ça vous tente justement de faire du cocooning et rattraper OD chez Habitat Boréal, vous avez le droit. Habitat Boréal qui nous ont mis tantôt là, une magnifique photo de l'intérieur d'un chalet. Là. Sont à suivre sur les réseaux sociaux, ça va vous donner le goût justement, puis je ressentais ça aujourd'hui, Jean-Michel. Je ne sais pas si des fois, tu as ce goût-là de dire, « Il me semble que je partirais dans un chalet en fin de semaine. Bon, je dirais que là, ça me travaille. Fait que Habitat Boréal, situé en Mauricie, dans le coin de Latuc, qui sont fiers commanditaires, bien sûr, du podcast Le Paddock. Étienne, dirais-tu blonde? Oui, en effet. salut Michel, salut Étienne, ouais. Salut Sébastien et salut Francis
qui est présent. C'est un électricien qui travaille en hauteur, dans le fond.
Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ce que.
Avec des gros fils.
Je pense que c'est ce que le jeune homme très tatoué essayait d'expliquer à la jeune fille qui ne savait pas c'était quoi un électricien. Mais bon.
Ouais.
On parlera peut-être pas de ça. On fait une petite brève sur Monaco en décollant parce qu'on n'aura peut-être pas une demi-heure à dire là-dessus, mais ça a été une des nouvelles la semaine. Ça a été quoi ta réaction jusqu'à 2035? Aïe, hein?
J'étais déjà déçu à 2031. 2035, on vient de m'assommer un peu. On a déjà parlé en long et en large. Tant que les voitures vont être grosses comme ça, ça m'est... Même si c'est prestigieux, moi, j'aime ça regarder une belle course, puis Monaco, ça m'offre pas satisfaction de ce côté-là. Fait que pour moi, j'étais... Mais je comprends que c'est une question de sous, de business, de prestige et tout. Fait que... Mais non, moi, j'étais comme un peu déçu de voir ça.
Ouais, je te suis là-dessus, puis c'était drôle parce que justement, quand ça a été partagé dans le groupe Messenger, le Paddock Podcast F1, là, notre communauté Messenger, tout le monde fait comme, bon, ben là, il va falloir qu'il course à l'envers, il va falloir un arrêt au stand à chaque tour. Tout le monde essayait de trouver une façon que ce soit excitant, justement. Bon, malheureusement, je pense pas que ce sera excitant, justement, Monaco, mais est-ce que ce sera... Ce qu'on va endurer une fois par année en faisant comme « Ah oui, il va y avoir des livrées spéciales. Ah, la qualif est le fun. » Puis le dimanche, ben, on va faire comme « Ah ouais, c'est plate. » Mais écoute, j'ai eu la même réaction que toi, Jean-Michel. Tu sais, Monaco jusqu'à 2031, on était déjà « Ah, le 2035. » Tu sais, on attend d'autres bonnes nouvelles de d'autres Grands Prix. Puis ouais. Celui-ci, c'est ça. Donc, on n'est pas enchanté. Disons-le ainsi, de Monaco jusqu'à 2035, mais je crois qu'on a été enchantés de notre fin de semaine en Italie. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus en fin de semaine de ton côté?
Ben, je pense que je vais y aller un peu avec tout le monde, avec Max.
Ouais!
on l'attendait pas là. En plus que Red Bull avait mentionné qu'il n'avait pas conçu d'aileron spécifique au circuit. T'sais, on était comme, bon, tu sais... Peut-être qu'ils ne le sentent pas, justement, qu'ils ont des chances là-bas. Mais écoute, Max a fait du Max. Hein. Il nous a impressionné une couple de fois comme ça cette année. Là. Tu sais, je pense au Japon en début de saison. Mm-hmm. Une couple de fois qu'il nous a sorti des tours comme ça. Puis on a eu une explication intéressante pour la qualification. Hein. C'est qu'en FP3, on voit bien des images sur certaines publications. Il a décidé de complètement changer le setup de l'aileron arrière. Écoute, on est passé de pas beaucoup à pratiquement lame de rasoir, là, comme dirait si bien Pierre-Houd. Puis écoute, puis on sait que c'est quelqu'un qui est capable. À Silverstone, il avait opté justement pour des réglages un peu comme ça. Pas d'appui en arrière, mais son talent est capable de compenser. Fait que je pense que c'est ce qui a fait aussi que d'un, il y a eu un tour canon et de deux, en course, personne n'était capable d'aller le chercher.
Non, c'est ça. Puis vendredi, je faisais ma chronique à Kick. Puis je disais, ouais, Verstappen en fin de semaine. Non, je ne penserais pas. On va surveiller peut-être les Ferrari qui avaient eu un bon vendredi. On savait que Lewis avait sa pénalité, mais quand même, tu sais, Charles avait fait de bon temps vendredi. Pour ce qui est de McLaren, ben, on ne peut pas les écarter là, cette saison. C'est une voiture qui est totalement incroyable. Fait qu'on s'est dit, bon, Lando et Oscar seront là. Mais jamais j'aurais pensé Max Verstappen. Écoute, ça a été le tour le plus rapide de l'histoire de la F1 là, avec la moyenne de kilométrage et tout ça. Là. C'est sûr, c'est à Monza. Là, on s'entend que c'est une piste très rapide. Ouais. J'ai trouvé ça très impressionnant. C'est drôle parce que Vincent dit Max Verstappen, puis les gens le chantaient. V'là 2 ans, oublie ça. Là. Personne n'aurait chanté ça dans les estrades. Puis il y avait Jackie X qui est sur la diffusion souvent des F1 TV avec Gaëtan à la télé belge, qui a déjà été pilote pour Ferrari. Puis il disait, c'est incroyable à quel point maintenant Max Verstappen a un capital de sympathie qu'il n'avait pas parce qu'il n'a plus la voiture pour gagner. Puis quand il gagne, ben là, les gens sont comme, wow, quel talent incroyable! Puis c'est un peu ce qui se passe avec Verstappen en ce moment, c'est qu'on le sait qu'il va terminer troisième au championnat mondial. Il ne gagnera pas cette année parce qu'il n'a plus la meilleure voiture, mais il est capable de nous pousser une performance comme ça. Puis tu m'en faisais part d'ailleurs que Laurent Mekies l'a écouté. Puis c'était le fun aussi l'après-course quand il a parlé. Il y a eu une entrevue, je pense que c'était à Canal+, qui parlait justement, Laurent Mekies, que Max Verstappen, dans la voiture, on le connaît comme une... Tu sais, c'est une personne qui est un pilote rempli de talent assez incroyable, mais c'est encore une meilleure personne à l'extérieur de la voiture. C'est pas le genre de commentaire qu'on entendait sur Verstappen dans les dernières années. On disait, c'est un excellent pilote, il est phénoménal. Ouais. C'est tout. Mais on n'avait pas cette partie-là. J'ai trouvé ça intéressant. C'est pas quelque chose que Horner pouvait parler, mettons. Je trouvais ça le fun que Mekies avance ce type de qualificatif.
Puis Max, en plus, à la fin de la course, dans les échanges radio, Mekies, à un moment donné, il a pris le bouton de la radio, puis Max a dit, hey, c'est ta première victoire en tant que boss de l'équipe. Puis honnêtement, moi, je trouve que c'était, je crois, le meilleur move que Red Bull pouvait pas faire. Je pense que ça va vraiment les propulser en avant, mais solidement. C'est un gars qui vient de la technique, un ingénieur. Il a fait plein de départements. Il a travaillé pour la FIA. C'est un gars brillant. Il sait comment la machine fonctionne. Puis c'est ce que tu disais, c'est que maintenant, depuis l'arrivée de Mekies, ce qu'on a changé un peu comme approche chez Red Bull, c'est qu'on ne se fie plus à 100%, par exemple, aux données du simulateur. Si le simulateur dit « ben non, on n'essayera pas ce réglage-là, ça ne va pas fonctionner », puis tu sais, en même temps, tabarnouche, t'es un multiple champion du monde dans ton équipe, écoute-les quand ils te donnent de l'input.
Ouais, c'est ça.
Je comprends pas que ça n'a pas été fait avant. C'était quand même, c'est Max Verstappen. Là, c'est pas... S'il dit « j'aime mieux ma voiture comme ça », Rexy de même, puis c'est tout essayé au pire. Je pense que c'est vraiment, honnêtement, la meilleure chose qui pouvait arriver à Red Bull. Je crois que ça va probablement faire cesser l'hémorragie des talents puis des cerveaux aussi, puis d'avoir mis fin à l'ère Horner comme ça, je pense qu'honnêtement, on sent vraiment un vent de changement. Puis je pense peut-être que l'an prochain aussi, c'est là que ça va paraître le plus. Puis tu sais, peut-être avec un Isaac Hadjar aux côtés de Max Verstappen, dans une réglementation que tout recommence à zéro, ben c'est peut-être là la bonne opportunité. Parce que là, dans cette génération de voitures-là, la deuxième Red Bull, la personne qui pouvait la piloter, fait peut-être qu'on va changer le minding aussi de ce côté-là.
Peut-être aussi. Ça pourrait être très intéressant parce que, bon, dans le dossier Red Bull, là, Yuki a terminé 13. Là. C'est triste.
Hadjar
comme ça.
A parti des puits, fini
10.
8-10, en tout cas.
Il a terminé 10.
C'est très bon, là, encore une
Yuki
fois.
Yuki s'est accroché avec Lawson, je crois. Bref, Yuki.
Mais ce qui a été impressionnant de cette course-là, Théo, c'est que les gens qui sont partis en dur, la gomme aurait pu fait toute la course.
Oui.
Hadjar, c'est ce qu'il mentionnait, il dit le pace était bon, puis il n'y avait aucune dégradation. Genre, j'aurais pu faire toute la course avec ce pneu-là. Et même ceux-là qui ont attendu jusqu'à la fin, tu sais, ben c'est correct, tu sais, on espérait, il y avait quand même 60% de probabilité de voiture de sécurité. Les gens attendaient de voir s'il va se passer quelque chose, mais je pense que cette stratégie-là s'est retournée. Selon moi, contre McLaren, on a attendu quelque chose qui n'est pas venu au lieu d'être proactif puis d'essayer de battre Verstappen puis Red Bull d'une autre manière. Fait que peut-être pas leur meilleur, je pense, en fin de semaine.
Non, vraiment pas leur meilleur. On va parler de la stratégie dans deux petites secondes, mais ça a passé proche d'un safety car hein, quand Sainz qui a
Je pensais que ça y était.
Ouais, Sainz et Berman, mais Sainz, ça n'a pas été sa course en fin de semaine, là, on va être honnête. Là.
Le téméraire, ouais. Pas mal, disons.
Oui, même les médias m'ont duré longtemps, Vincent, ouais, totalement. Les gommes étaient très performantes en fin de semaine. Oui, McLaren a raté son coup en fin de semaine. Je te dirais que dès le départ, tu sais, c'est pas la force de Norris, là, c'est retrouvé dans le gazon. Bon, peut-être pousser un peu Max. On a été assez safe chez Red Bull pour donner la position, mais on est allé la rechercher assez rapidement. Je pense qu'on était très confiants qu'on allait être capable de rattraper Norris. Pour Piastri, ben, il s'est rapproché. Il a profité du slow stop de Norris. Mais là, finalement, on a dit à Norris, « Ouais, let's go, passe Oscar. » On lui a dit de te laisser passer. Puis moi, ce qui me... Quand c'est arrivé à Norris, son slow stop, là, qu'il y a eu un problème avec le fusil à l'avant, je me suis dit, karma, parce qu'il avait refusé de rentrer au box parce qu'il avait peur de se faire undercut par son coéquipier Piastri. Puis je me suis dit, tiens, t'as pas voulu rentrer au box quand ton écurie te l'a dit. Ben, il se passe une boîte parce qu'il ne s'est pas fait saboter. Il n'y a personne, parce que là, tu sais, je veux dire, on lui a redonné la position en plus. Fait que, tu sais, c'est une erreur qui peut arriver. Honnêtement, là, c'est à rien y comprendre. Personne ne comprenait. Et même Verstappen, on lui a posé la question, on dit, je l'aurais pas laissé passer.
Dis, on sort plus les positions, puis là, il riait de ça.
Oui.
Just for a bad pit stop.
Ouais, oh ouais, c'était incroyable. Puis...
Mais ça arrive, Piastri l'a dit, tu sais, ça fait partie de la course, un mauvais arrêt.
Là, ouais, c'est ça.
Si vous voulez, je le fasse, m'en le faire. Hein. Mais c'est pas, tu sais, parce que c'est pas parce que la stratégie n'a pas marché, c'est une erreur. Fait que je pense que c'est le monde a été scandalisé de ça un peu pas mal.
T'sais, et Norris, d'ailleurs, s'est fait huer sur le podium. Oui. Ouais.
Ben...
Avec raison. Là.
Ouais, ben là, tu sais, c'est ça.
Pas ta place, là.
C'est une erreur du mécanicien. Fait que là, rendu là, c'est poche que Piastri soit obligé de te redonner la position. Je comprends que l'ordre était ça avant les arrêts, mais tu sais, s'il n'y a pas. Piastri n'a pas payé pour l'erreur du mécano, c'est bien plate. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Mais En tout cas, c'est. Puis c'est ça. Les fans italiens sont assez. Ils lui ont fait bien payer sur le podium. Puis ils ont remercié Max en chantant sa. Sa chanson, même par les Italiens, c'était assez spécial de voir ça. Ouf. Puis c'est fou. Moi, la scène du podium de Monza, là, c'est des images. Le drapeau en cœur de Ferrari, là, qui prend toute la piste. Là. Il y a une marée humaine de gens qui... J'ai pas pu reparler à mon oncle. Je sais pas s'il a pu faire une petite course en direction du podium pour aller voir ça. Je vais essayer d'y parler cette semaine pour voir s'il n'a pas eu la chance de vivre ça. Mais tout qu'un trip, là, il était à l'entrée de un peu avant, dans le freinage de la parabolica. Là, fait qu'il me disait que ça passait en avant de lui à 330 à peu près avant de freiner. Là, puis il était assis, je pense, à la troisième rangée. Là, c'était complètement capoté. Puis, c'est rare, tu sais, qu'on a la chance pendant la saison je pense qu'il y avait quelqu'un qui nous écoute qui était là en Belgique, si je ne me trompe pas, qui nous avait envoyé des images aussi où est-ce qu'il était assis. Fait que ça, on est vraiment chanceux là, quand il y a des gens qui peuvent nous partager ces trucs-là. Mais c'est ça. Pour finir, pour McLaren, on a peut-être vu le. Il y a toujours un circuit, tu sais, qui ne plaît pas à une voiture dans l'année. Tu sais, les années passées, c'était par exemple Singapour qui était la bête noire de la Red Bull. Ben là, peut-être qu'il y a des circuits à haute vitesse comme ça. C'est pas la spécialité de la McLaren. Puis heureusement pour eux, puis peut-être, je dirais, à part Vegas puis Baku qui ont une longue ligne droite, mais il y a une longue portion sinueuse pour se reprendre. Fait que à voir, là, mais en tout cas, c'était pas leur week-end, ils n'étaient pas dominants comme ils l'étaient d'habitude, mais c'est surtout de manger une claque de 19 secondes d'avance. Aïe, ça fesse dans l'orgueil, je pense.
Ouais, ça fesse dans l'orgueil, puis je sais pas si c'est tant bon pour la confiance de Norris que Piastri soit obligé de le laisser passer. Tu sais, sérieusement, je comprends Piastri d'avoir été un joueur d'équipe parce qu'on peut... connaître du jeune pilote. Je pense pas que c'est un gars qui est très cocky. Là. C'est un gars qui est très, très propre. Puis, tu sais, on soulignait d'ailleurs ses bagarres en piste, tout ça. T'sais, des fois, oui, il sort le coude un peu, mais je pense pas que c'est un gars qui va s'obstiner. Il est assez neutre dans ses commentaires, mais c'était vraiment inutile ce qu'on lui a demandé. Puis, il méritait absolument pas de redonner cette position-là. Heureusement, c'était pas pour une victoire. Puis, en effet, Norris était parti d'eux. Tu sais, c'est pas... dramatique, là, tu sais, au championnat des pilotes, ça
c'est
fait 3
points, tu sais, c'est pas 31 ou 34, t'es rendu là, ça change-tu vraiment quelque chose, en tout cas, je pense que les gens l'ont, ça a passé de travers, disons.
Ben, Norris a cette, il y a beaucoup de fans de Norris et il y a beaucoup de haters de Norris parce qu'il arrive ce genre de choses, c'est comme un bébé gâté, puis j'ai trouvé qu'on y redonnait ça, puis tu sais, je vous le rappelle, là, il a refusé de rentrer au début parce qu'il avait peur au undercut. Il était comme, ben là, non, c'est Oscar qui rentre. Je me suis dit, tiens, le karma t'a frappé, mais on y redonne la place. Là, après ça, on dit free to fight, mais tu sais, je veux dire, il a déjà ralenti dans un circuit ultra rapide.
C'est tellement ridicule, cette consigne-là. Là. C'est même pièce, tu sais, genre, OK, je le laisse passer, puis tu veux qu'on se batte, mais là, clairement, non, là, tu sais. Il reste genre quoi, 4-5 tours, là. Je vais pas faire
je pense
ça.
Qu'il y en restait 3.
Ouais, ben il s'est arrêté Norris 46 puis Astrid 45. Tu sais, il restait comme 7 tours, mais le temps qu'il redonne la position, comme tu dis, peut-être qu'il en restait 3-4. Là, fait que,
Il en restait pas beaucoup, en tout cas. Je ne me souviens pas du lap exact où c'est arrivé. Mais je trouvais que ça faisait clown, puis c'est le genre de truc qui fait réagir énormément dans notre groupe, et ça faisait réagir énormément partout sur les réseaux sociaux, dans les articles. T'sais, ils ont eu une drôle de gestion, McLaren, je pense, une gestion unique qu'on n'a pas vu beaucoup. Mais ouais, Étienne a dit, cette année, Norris a eu beaucoup de passes sur la palette de l'écurie, et en effet, je ne sais pas qui l'avait souligné dans notre groupe, que Oscar va finir par gagner quand même. Oui. Mais il n'aura pas été aidé. Ça, c'est sûr que non. On rappelait la Hongrie de l'année passée. Mais c'est vous autres, vous êtes fourrés. T'sais, je veux dire, c'était de la faute de l'écurie. Oui, on a demandé un driver swap pour une victoire, mais c'est eux qui se sont... Là, c'est un gun qui a mal fonctionné à l'avant-gauche.
C'était la stratégie qui n'avait pas fait pantoute ce qu'ils pensaient que ça allait faire. Mais là, effectivement, c'est une erreur qui est humaine. Fait que moi, honnêtement, rendu là, je suis comme, bon, c'est-tu le payback de la Hongrie, puis je veux plus jamais voir ça, là. C'est pas...
Ouais, parce qu'on a dit qu'il s'était passé quelque chose dans le passé.
Lando, ça avait été long. Ben, ça, c'était honnêtement dans les pires scènes que j'ai jamais vues. Piastri, on lui a dit tout de suite, comme tu dis, c'est un gars rationnel, un gars qui a fait, bon, OK, vous voulez que je le fasse, je vais le faire. Mais je sais pas si vous vous rappelez, là, on parlait à Norris, puis il répondait pas. Puis écoute, on était quasiment rendu à Zach Brown, là, de l'appeler sa radio, puis là, de dire, là, tu vas faire ce qu'on dit, parce que sinon, ça pourrait très, très mal aller.
Ouais.
Hey, Stella qui a parlé, son ingénieur, on était quasiment rendu les Arabes qui sont propriétaires de McLaren. C'est pas drôle, là, tu sais, c'est... Puis il répondait là, pas, puis il a donné comme... quoi, au dernier tour, je pense, sur la ligne droite. Ouais, là, puis, il a jeté l'angle, comme dirait Pierre. Là. C'était quasiment dangereux. Là. Fait que, en tout cas...
Ils sont ridicules un peu. Tu sais, on peut dire qu'ils ont fait la meilleure voiture, mais côté stratégie puis gestion comme ça, ça fait ridicule un peu.
C'est peut-être le revers de la médaille de dire on a deux bons pilotes qui vont se battre. C'est la gestion plus compliquée que quand, mettons, t'as un Max puis un autre pilote à côté que, tu sais, ce genre de choses que tu n'as même pas besoin de penser ou de dicter. Là, clairement, que ça me rappelait les bonnes vieilles années quasiment là, de Eddie Irvine et Rubens Barrichello.
Ouais. Max qui n'avait pas laissé passer Checo, si l'on se souvient, je pense que c'est là deux saisons.
Oui, au Brésil.
Ouais,
puis c'était pas pour la deuxième place au championnat.
Oui, c'est
là.
Ça. Ça y aurait donné une bonne chance.
Mais c'est ça, Max était comme... Pensez-vous vraiment que je vais faire ça?
Il a dit, on en avait déjà discuté.
Ouais.
C'est pour ça que ça n'avait pas si surpris que son commentaire.
C'est une tête forte, Max. Puis c'est correct aussi.
C'est peut-être une new gen. C'est une nouvelle génération.
Oui.
Piastri, Norris. Mais je pense que les bons vieux pilotes de F1 là, n'auraient pas laissé passer. T'sais, peut-être que Piastri s'est dit, bon, c'est pour la deuxième. T'sais, il n'y a pas gros d'écart en plus entre les positions.
C'est trois points.
Je pense qu'il s'est peut-être acheté à paix un peu avec ça. J'espère que le karma et tout ça va comme le replacer en bonne place, parce qu'en fin de semaine, ça avait l'air d'un shit show quand on demande à un gars. Tu sais, je veux dire, c'est un slow stop. Coudon. Ça arrive. Bref, je pense que ça a été la grosse drama de la fin de semaine. Ça a pas mal été celle-là.
Ça a fait. Ça a spiné partout, veut pas, sur nos réseaux sociaux. Puis aujourd'hui, je riais parce que je voyais un peu sur TikTok les gens qui disaient Norris fan are DTS fan. Tu sais, c'est que c'est des gens qui ont appris à le connaître, là. Puis ça se peut, c'est pas mal de cette génération-là, en fait, quand Drive to Survive a commencé. Fait que, mais c'est ça. Tu sais, moi, je suis un peu comme toi. Tu sais, ça a jamais été, mettons, mon préféré, puis tu sais, soyons réalistes, il n'y a pas l'étoffe de Piastri. Tu le vois, là, Piastri, il y a un coup de volant. Mentalement, il est infaillible. Je ne l'ai pas vu une fois cassé cette année. Puis tu sais, Vincent parlait tout à l'heure de quand il a fait le dépassement par l'extérieur, je pense, sur Leclerc.
Il y a eu des belles manœuvres là, avec Leclerc en
début. Mais le départ, je le réécoute parce qu'il y avait beaucoup d'affaires à suivre. Honnêtement, là, c'était vraiment pas facile. Puis, tu sais, je sais pas pourquoi ça me flash dans la tête, mais tu parlais tout à l'heure du départ de Verstappen. Puis Norris était à droite, mais tu sais, quand le gazon est arrivé, c'est là que Max s'est tassé, mais c'est parce qu'il a peut-être fallu qu'il se tasse genre une ou deux longueurs de voiture avant pour que Norris puisse passer aussi sur l'asphalte, parce que tu sais, il était pratiquement à sa hauteur aussi. Fait que, en tout cas, ça, j'ai trouvé ça un peu dirty, là, si on peut dire, mais tout s'est passé vite. C'est ça l'affaire. Il y avait tellement d'affaires à suivre. Puis ça s'est passé au virage 2, 3, 4. En tout cas, mais c'est ça. Moi, je suis pas mal convaincu, comme la personne disait dans notre groupe aussi, que tu sais, peu importe ce qui va arriver, c'est Piastri va l'emporter. Il y a encore plein de belles courses qui s'en viennent. Puis je pense qu'il va, assurer de ce côté-là, puis nous montrer pourquoi ça va fort probablement devenir le champion du monde 2025. Écoute, il faudrait être catastrophe, puis c'est pas le genre de gars qui commet des erreurs comme ça. Norris, on en a déjà quand même presque, on peut compter sur une main depuis le début de la saison. Piastri, c'est pas son genre, fait que... À suivre, mais ben, c'était pas leur meilleur.
Il y a deux fois dans la saison qu'il a failli emboutir Norris, là, mais au moins c'est pas arrivé.
Ouais.
de son propre aveu, quand c'était justement l'entrevue avant le podium, mentionnait que c'était pas le pace, c'était pas le réglage qui aimait le plus en fin de semaine. Ça y allait pas. Fait que il a terminé troisième, c'est quand même pas mauvais. On s'entend là-dessus. Pour ce qui est de Lance, c'est vrai, hein, il a comme pité, puis il a terminé dernier, là, si je ne me trompe pas, des pilotes actifs. Là. Je n'ai pas vu, pour être très honnête non plus, ce qui s'est passé au stand pour Lance Stroll, mais je sais que ça a comme fait pit, puis après ça, on te l'a perdu. Je ne sais pas si de ton côté, tu...
Ben, tu sais, ce que je vois ici dans les statistiques, il y avait un tour de retard sur le meneur, puis tu sais, il y a au 49e tour. Puis il a complété 52 tours. Mais il a quand même complété. Il a quand même complété ses 52 tours avec son tour de retard. Mais c'est ça. Peut-être qu'il y a eu une bourre. Je ne l'ai pas vu non plus, pour être bien honnête. Je pense que je l'ai vu passer dans la conversation à un moment donné, cette affaire-là. Puis je savais pas trop de quoi on parlait. Puis en toute honnêteté, je suis pas retourné voir qu'est-ce qui s'était passé. Puis j'ai pas d'explication. En toute honnêteté là-dessus, je sais juste que ça s'est mal terminé pour Hülkenberg puis Alonso, par exemple, eux autres, les pauvres. Hein? Surtout Hülkenberg.
Hülkenberg qui n'a même pas décollé.
Ouais. Tire de car. Ah non!
Ouais, c'est ça!
Puis une suspension cassée comme ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Quand on a vu Alonso, c'est comme, quoi? Il est allé sur un vibreur puis ça a juste cassé.
Puis tu as arraché un peu, puis Alonso n'était pas très content, là, le mentionner. Ah. Là, tu sais, il avait un bon pace, Fernando, en fin de semaine en plus.
Ben, il a eu une bonne, très bonne qualif, contrairement à son coéquipier.
Ouais, mais ça, c'est l'habitude.
Ouais, ben Len, c'est un gars de rattrapage, semble-t-il. Oui, tu sais, qui aime ça faire des courses de rattrapage. C'est plate, parce que s'il partirait peut-être 8, 9 ou 7, peut-être qu'il pourrait finir pas loin du podium, parce que c'est un gars qui a des bons pace de course quand même. Mm-hmm. Mais c'est ça, tu sais, il s'est retrouvé à partir 16e en fin de semaine. Puis Alonso, il est allé nous tirer tout qu'un tour de qualif, par exemple. Puis à un moment donné, on dirait que c'est comme passé de quoi. Je sais pas si la piste s'améliorait, mais là, les temps se sont mis... Ben, comme un peu à chaque séance de qualif qu'on voit depuis une couple d'années, c'est ce qui fait que c'est le fun aussi. Là. Mais avec les essais qu'on avait eus, personne voyait honnêtement les Aston peut-être même faire un top 10. Fait que le bon vieux Fernand est allé nous...
L'ami
nous
Fernand.
Ouais, il nous a tiré un bon tour avec sa Aston.
T'as parlé d'Hülkenberg, puis justement, là, je reprends un des commentaires de la diffusion des Fun TV en fin de semaine. Ça fait bien, on écoute comme les diffusions francophones.
On a les références des deux bords.
Ouais, puis c'était très intéressant. Je pense que c'est Jackie Hicks justement qui en parlait, puis qui disait Hülkenberg commence à se faire rattraper côté mental et confiance par Bortoletto parce que il signe de très bon temps, il est très, très, très solide en course et maintenant en qualification parce qu'il a qualifié quand même 8e, ce qui est très, très bon pour Bortoletto. Bon, en ajoutant la pénalité d'Hamilton, là, il a avancé, mais pour ce qui est de Bortoletto, moi, je l'ai trouvé encore très, très bon en fin de semaine. Oui. C'est un qu'on répète souvent. On se disait, ah ouais, il a l'air prometteur, mais avec Kicksaber, qu'est-ce que ça va donner? T'sais? Puis on se posait bien des questions. Il a terminé 8e. Fait que c'est quand même 4 autres points pour Kicksaber. Et très belle performance de sa part. S'est battu justement une couple de fois avec Fernando Alonso, avec Antonelli. Non, ce pilote-là, je l'aime bien. Puis peut-être que oui, en effet, ça commence à jouer dans la tête du bon vieux Hülkenberg.
Ben, pas le choix. Tu veux pas. Je pense que Hülkenberg, c'est un vétéran. Mais je vais répéter ce que Bertrand Hull dit à plusieurs reprises. Bortoleto, première année F3, champion. Première année F2, champion. T'sais, ça ment pas. Là. C'est, puis moi, honnêtement, je fais mon meilleur coup de pas. Je le savais pas c'était qui quand on l'a annoncé.
Non, c'est ça.
Je suis pas trop le gars qui suit la F2. Puis je m'en ai jamais caché non plus. On a Kevin qui l'a su pour nous de toute façon.
Oui, exact. On a un recherchiste.
Ouais, c'est en plein ça. Fait que tout ça pour dire que moi, j'apprends à découvrir le jeune homme. Puis on a parlé aussi hein, quand ça commençait à aller bien aller pour eux autres. Là, il y a quelques grands prix. Puis lui, vraiment, il est en progression assez incroyable depuis quand même une séquence de course. Puis comme tu l'as mentionné, je pense que c'est Vincent qui disait là, au niveau de la qualif, là,
oui.
Écoute, deux dixièmes d'Antonelli qu'une Mercedes. Un qualif.
Ouais,
lui, il a une sabeur, là, kick sabeur, steak, tout ce que tu veux. Là.
Ouais, steak que, F1, le truc machin.
Ah non, tu sais, puis il a terminé huitième devant Antonelli, devant Adjar. Tu sais, Non, il est vraiment impressionnant, honnêtement, avec cette voiture-là. Puis j'aurais aimé voir un peu ce qui aurait pu se passer avec Hülkenberg aussi, parce que, tu sais, veut pas, c'était pas mauvais la qualif. Il partait 12e quand même. Fait que, tu sais, c'était quand même deux positions intéressantes pour l'écurie. Puis, tu sais, depuis un petit bout, c'est plus la pire des écuries, on va se le dire. Là. Ils ont quand même monté d'un, sinon deux échelons. Ils sont devant Alpine, ça, c'est sûr et certain.
Ouais. Ils sont devant Alpine et Haas.
Oui, Haas aussi. En fin de semaine, on va se le dire, RB, c'était pas leur fin de semaine, je crois. Le Larson était...
Non. Adjar a réussi à terminer dans les points, là, mais ouais. Ça a mais été t'sais... un clash entre sa troisième position de la semaine d'avant. Là.
Oui, ben, ça, c'était vraiment pas le même minding, mais ouais, bien impressionnant, puis... C'est encourageant pour le projet Audi quand même qui est à venir. Puis je sais qu'on se répète, on le dit souvent, mais on a engagé des bons éléments. Fait que je pense qu'on commence à voir les fruits de tout ça. Puis l'an prochain, ben, ça va être, encore une fois, tu sais, on se cachera pas, là, le châssis et tout, ça va être développé dans les installations de Sauber avec quand même un bureau en Angleterre et tout, mais avec le moteur Audi que j'ai très hâte de voir. D'ailleurs, si tu me permets une petite parenthèse. Hein,
oui, vas-y.
On avait voulu organiser une réunion pour les moteurs 2030. On aimerait bien revenir à des V8, par exemple, avec des carburants synthétiques, là, donc des carburants renouvelables, un peu comme on est rendu. Puis la réunion a été annulée. Honda et Audi se sont opposés à ça. Puis je peux les comprendre. Avec tout l'argent qu'on demande aux constructeurs d'investir pour les moteurs qui s'en viennent, on veut que ça dure plus que 2, puis 3, puis 4 ans. T'sais, au moins un cycle réglementaire, ben, habituellement, comme celui-là, en ce moment, il va en durer 22, 23, 24, 25. T'sais, il va en durer 4 ans. Fait qu'est-ce qu'on peut au moins se rendre, par exemple, jusqu'à 2030 avec ces moteurs-là? Puis tout à l'heure, on parlait de Monaco, mais là, je peux peut-être faire un lien avec ça. T'sais, c'est à partir de 2030, on a des moteurs qui reviennent, par exemple, moins compliqués, presque plus d'hybridation, qu'on est capable de réduire la taille des voitures, ben, t'sais, peut-être que Monaco va retrouver de son attrait un peu pour le spectacle. Fait que on ne sait pas ce qui peut se passer d'ici ce temps-là, mais ça brasse beaucoup. Mais je comprends la position de Honda et de Audi. Peut-être Audi, c'est très, très gros. Honda, c'est un constructeur quand même moyen. Donc, je comprends que peut-être eux, chaque denier investi est un petit peu plus important. Puis pour eux, c'était les arguments qui les ont fait revenir en Formule 1. L'hybridation à 50% et tout. Fait que je peux les comprendre qu'ils veulent en avoir pour leur argent. Fait que ça sera un dossier à suivre, mais la réunion pour le moment a été annulée. Donc, on n'en parlera pas. C'est la FIA qui pousse bien gros pour revenir vers ça. Mais en même temps, je me dis, bon, mais pourquoi d'abord vous avez poussé pour aller dans cette direction-là? C'est pour aller pour complètement de l'autre côté du spectre dans 4 ans. Fait que, on verra bien.
On verra bien. Tu t'as parlé d'RB, puis je reviens un petit peu là-dessus pour saluer le gag du week-end. C'est que le monde offrait de la colle à Isaac Adjar pour recoller son trophée. D'ailleurs, il y en a eu un nouveau là, avec un espèce de socle en bas, tu sais, un espèce de caoutchouc, comme ça, quand il va le déposer, ça va absorber le choc. Mais oui, il a mentionné qu'il y a beaucoup de gens qui offraient de la glue. Fait que là, j'étais là, de la glue? Ah non, c'est en anglais épais, fait que c'est de la colle.
Ouais.
Fait que ouais, on offrait de la colle à bon, Jarre pour remettre son trophée. On n'a pas parlé de Ferrari encore. Tu as mentionné que tu avais la casquette Ferrari de Lewis parce qu'il a connu une bonne performance malgré sa pénalité. C'est sûr et certain qu'on aurait aimé terminer sur le podium. J'en suis convaincu pour ce qui est de Ferrari. Mais si on regarde ça froidement, c'est une belle performance en termes de points pour l'écurie italienne. J'ai aimé quand même leur course ce week-end, malgré que Charles a encore posé des questions sur le changement de pneus. Il dit « Ouais, mais je n'étais pas menacé, la gang. Qu'est-ce que vous nous faites là? » Mais ça, écoute, c'est l'histoire de chaque course maintenant pour l'ami Charles Leclerc.
Mais hein, puis écoute, à voir Leclerc, écoute, tu l'as vu au départ, le couteau entre les dents, agressif à mort. Waouh, j'ai souvent reproché ça contre Verstappen, mais là, c'était pas contre Verstappen, c'était avec les McLaren. Là. Mais quand même, waouh, Leclerc, tout un coup de volant qui nous a fait en début de course. Lewis a eu un bon début de course aussi. Puis je pense qu'il y aurait eu, en tout cas, selon lui, on aurait pu terminer peut-être cinquième parce que quand il était quand même assez proche de Russell, il a demandé à son équipe de faire l'undercut pour justement essayer d'aller le chercher. Puis bon, on sait que Ferrari, ça s'estime beaucoup avant de prendre une décision sur les stratégies. Mais somme toute, il est vraiment très satisfait, surtout après être parti de la 10e place quand même. Limiter les dégâts, tu sais, il partait avec 5 prises au bâton en fin de semaine en partant. Fait que, écoute, il s'est quand même bien qualifié, chose qui n'avait pas super bien été pour lui dans les dernières fins de semaine. Fait que je pense que ça l'a revigoré. Il a dit qu'il a changé son approche aussi. Il commence à mieux comprendre la voiture. Puis, c'est ce qu'explique RDS. Il y a beaucoup de changements qui ont été faits peut-être pour s'adapter à Lewis. Il y a la suspension arrière, tu sais, qu'on a changé. Ensuite de ça, je pense qu'au niveau des freins aussi, on aurait changé de fournisseur parce que Lewis n'était peut-être pas capable de s'adapter. Tu sais, quand tu as passé 12 ans avec la même manufacturier,
non,
tu veux pas la pédale, tu as une mémoire musculaire dans ton pied qui sait exactement, tu sais, comment qu'elle fonctionne. Puis on essaie de l'aider aussi. Tu sais, un changement de motoriste aussi, semble-t-il que c'est plus difficile. Le frein moteur chez Ferrari serait plus violent un peu que celui chez Mercedes. Fait que, tu sais, c'est tout. On va le répéter encore, mais ça, selon moi, ça peut prendre au moins jusqu'à une saison avant de s'habituer comme il faut, puis surtout que ça a été annoncé, on s'entend, genre au mois de janvier. Là. Fait que tu sais, la voiture t'as déjà bâti, il n'a pas été impliqué dans rien. Fait que je pense que le meilleur est à venir peut-être pour l'an prochain, là, mais sinon, c'est le fun de voir comment il peut être aux antipodes. Là. Il était avant la pause estivale au fond du baril, puis
Au retour,
pire Jean-Michel. Pilote au monde, mais là, il était revigoré un peu. Il avait changé son approche. J'ai retrouvé, faut que je me refocus sur l'amour de piloter. C'est mon rêve de TQ de piloter. Puis cette voiture-là, faut que je l'apprécie. T'sais. Fait que, en tout cas, c'est un gars qui est capable de s'en virer au niveau psychologique. Ça, je pense que oui, là, il est quand même très spirituel et tout, Lewis. Là, fait que, en tout
cas. Ben, je pense que la semaine lui a fait du bien. T'sais, tout l'appui, il sortait partout. Il y avait des tifosi, des marées humaines, tout ça. Puis,
incroyable. C'est comme le pape
en
haut, genre du balcon. Là, je capote.
C'est malade raide. Peut-être que c'est ça qui va y redonner un petit boost. En effet, c'est une belle analyse de ce côté-là. Mais bon, somme toute, c'est ça. On aurait aimé fort possiblement un podium, au moins un rouge sur le podium. Ça aurait été le fun. J'ai adoré la livrée en fin de semaine qui était magnifique pour Ferrari. Ça, plein d'œil à celle de Niki Lauda. Les uniformes étaient beaux. Hein? Le racing suit était magnifique, écrit en lettres attachées ou en cursive. Appelez ça comme
vous c'était voulez. Vraiment la pareil comme la livrée, c'est ça, le titre de Lauda. Il disait que c'était pour les 50 ans de son premier championnat, dans le fond. La Ferrari 312T, puis les numéros étaient écrits pareil, tu sais, comme quasiment peint à la main. Puis
les pneus! On avait fait un genre de faux mag.
Hein? Oui, c'était... Ah non, c'est vrai, le souci du détail. Ben, c'est Ferrari. Hein, tu sais, s'ils mettent le même souci là-dessus qu'ils mettent sur la construction de leur voiture, tu sais, on ne pouvait pas s'attendre à moins. Mais on a vu beaucoup de même ma fille. Papa, c'est Lewis. Pourquoi il est en bleu? Ouais, on va s'en parler plus tard. Là, t'sais, quand... Déjà, tu sais, qu'elle commence à connaître ses couleurs de pilote et d'écurie. Là, c'est oh, là, on y amène de quoi que.
Mais non, c'est pas bleu. Oh, wow.
Mais c'est pas grave, j'adore ça. Elle a bien aimé sa fin de semaine quand même.
J'adore ça. Hey, Jean-Michel, on a parlé justement de casquettes et de trucs comme ça. Avant de jaser peut-être de Williams, le classement, tout ça, ce serait peut-être le temps justement de présenter la nouvelle casquette du paddock qui sera disponible en pré-vente demain. La tuque, on fait faire des tuques, ça vient de chez Genèse. C'est un gars du Saguenay qui est dans le coin de Québec. Je crois que, si je ne me trompe pas, ma copine connaît sa copine, une affaire comme ça. On a déjà commandé avec eux, on avait eu un excellent service. Puis je leur ai écrit dans les dernières semaines en disant « Hey, des casquettes seraient pas pires. » Puis on va travailler quelque chose pour les t-shirts puis tout un peu plus tard. Mais pour ce qui est des casquettes puis les tuques, on s'en fait toujours demander à chaque fois que je porte la mienne, je ne la porte pas ce soir, mais on peut vous dévoiler. Je pense que tu as l'image pas loin, la casquette et la tuque du paddock. Voilà, donc, qui sera disponible. Pour ce qui est de la tuque, l'écriture sera or en dessous. On m'a dit qu'à la broderie, ça allait mieux ressortir. C'est sûr et certain que là, c'est comme juste le logo qui est mis dessus. La casquette est de couleur marine. Donc, c'est vraiment le fond du paddock normalement. Puis, c'est un style campeur. Fait qu'un, comme une petite palette droite, vous l'avez sûrement vu cet été, c'est très à la mode. Fait qu'on a décidé justement de suivre la trend. Donc, pour ce qui est... oui, Jérôme dit, j'arrêtais pas de le demander à PO pour la tuque. Ouais, ça fait longtemps. Les tuques, ça fait un petit bout qu'on se l'était fait demander. Donc, pour ce qui est de la casquette et pour ce qui est de la tuque, ce sera en pré-vente à partir de demain, donc le 9 septembre dès midi. Il va y avoir un form que vous allez pouvoir remplir. Donc, voilà à quoi ça va ressembler. Si vous voulez commander les casquettes en pré-vente, on sera à... Ah, faut pas que je me trompe, je crois que c'est 32. Ouais, ça va être 32$, puis la tuque sera à 25$. J'espère que ma blonde m'écoute pour me dire si c'est le bon prix ou non. Mais il me semble que c'est ça. Sinon, ben, tous les détails sont là demain. Là. Donc, pour ce qui est de la casquette, ça, c'est 32 en pré-vente. Puis par la suite, là, on va les vendre 35. Pour ce qui est de la tuque, là, donc ce serait 28$. Puis ça, c'est le prix que vous allez payer. Il n'y a pas de taxes, etc. Là. On s'occupe de la payer, nous, de ce côté-là. Puis on vous revend ça pour nous encourager. Ce que ça fait, ben ça nous permet justement d'avoir le système de diffusion. Oui, on a nos partenaires et tout ça, mais ça nous permet d'avoir le système de diffusion puis de continuer à faire le paddock parce que ça ne coûte pas 0$. Puis, il y a bien des gens qui me demandent, hey, oui, OK, parfait, merci, Joe. Elle dit, ah, même la tuque, je l'ai montée. Donc, la tuque 32, non, excusez, la casquette 32 et la tuque à 25$. Donc, 32, la casquette, 25$, la tuque. J'avais mis 3$ de plus sur la tuque. J'étais plus sûr. Je pense que ça va être notre prix en vente régulière. Donc, vous économisez 3$ en fait si vous achetez en pré-vente, mais ça nous permet justement de rouler le podcast, le paddock, puis d'avoir des articles promo, c'est vraiment le fun. Je tissue quand même du monde de la radio, des communications, puis tu sais, les articles promo, j'aime ça. Fait que c'est ça, on a décidé de relancer ça cette année, si ça vous le dit. Je vais le publier dans le groupe, je vais le publier dans le groupe Messenger. Puis sinon, vous nous écrivez sur la page Facebook du paddock. Il n'y a aucun problème. Puis quand je l'ai envoyé à Jean-Michel, il a dit oui, on veut ce modèle-là. quand je te l'ai envoyé, tu as fait comme waouh, ça c'est trendy. Fait que si toi tu trouves ça trendy, normalement c'est bon.
Mais hein, mais j'en ai pas en plus de casquettes comme ça. J'arrête pas d'en voir. Puis tu l'opéra qui en ont sorti une un peu comme ça. Mais en tout cas, je vais fièrement la porter. Tu sais, en plus, bon, ben, vous me voyez le teint. Là. Moi, une casquette blanche était peut-être un peu moins avantageux pour moi, mais celle-là va être parfaite. Là.
Oui, oui, oui. le double minimum, ça paye le chef des finances du paddock. Oui, parce que, faut le dire, c'est Joanie, ma blonde, ma copine, qui va s'occuper justement de prendre vos commandes, de vérifier que tout le monde s'est noté et tout ça. fait que, oui, oui, Sébastien, tu donnes ce que tu veux, mais là, paye pas le double, par exemple. Je vais être gêné.
Mais comme disait PO, ça coûte quand même ça. Puis en plus, année après année, on essaye d'optimiser des trucs, de sauver à gauche et à droite. On a trouvé des manières d'héberger le podcast maintenant qui ne coûte presque plus rien. Ce logiciel-là, c'est la Cadillac. Là, on est habitué, on vous a mis la barre haute. On peut pas revenir en arrière, comprenez-vous?
Sérieusement,
on
n'a pas
de
commanditaire,
mais on peut pas le sortir de nos poches. C'est ça le problème.
Si Habitat Boréal n'est pas là, si Opéra n'est pas là, on pourrait, mais à un moment donné, je pense qu'on se tannerait aussi. Je veux dire, il y a des gens qui nous demandent « Hey, vous faites-vous de l'argent avec ça? » Ben, honnêtement, on est quasiment un organisme à but non lucratif. La seule affaire qu'on s'est payée, c'est des caméras et des micros au fil de 6 ans.
Fait que, ouais, c'est ça.
Dites-vous ça. Puis le micro, c'est un cadeau de Noël. Fait que dites-vous ça. C'est... fait que, tu sais, on produit ça pour le fun, puis tu sais, on adore ça, puis ça remplit nos lundis. Mais si jamais le cœur vous en dit, puis en plus, je pense qu'ils vont être vraiment nice. J'ai déjà hâte de les faire partir en production. Tu sais, comme je te dis, à chaque fois que j'en mettais, on était comme, c'est bien malade. Fait que là, on voulait absolument en refaire, mais c'est ça, c'est de prendre le temps de le faire, puis de s'occuper de ça. Mais ce sera lancé demain midi. Comme je vous disais, donc les gens qui l'écoutent en audio, je vais vous donner la date exacte, le 9 septembre à midi, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont l'écouter là, un petit peu plus tard cette semaine, donc peut-être que ce sera lancé déjà. Je voulais jaser un peu du team, les teams, parce que je regardais ça tantôt, puis bon, McLaren est premier, on le sait, Ferrari est deuxième. Ce qui fait en sorte que les résultats un peu décevants d'Antonelli, qui a réussi à terminer dans les points en fin de semaine, ralentissent un peu Mercedes. Red Bull, je pense, va terminer quatrième. Mais après ça, tu sais, Williams est quand même cinquième. Je m'attendais un peu plus à Sainz en fin de semaine, mais Albon a sauvé les meubles. Aston est 6, Racing Bulls est 7, mais tu sais, Aston a 62 points, Racing Bulls 61, et Keke Sauber est à 55, c'est pas un si gros gap que ça, et Haas, une coupe de bonne performance, puis on peut revenir à 44, Alpine, oubliez ça, là, sont 20 points.
Le nouveau patron de Renault a par contre confirmé qu'il allait être en F1 pour longtemps, fait que bonne nouvelle quand même.
On a signé Gasly cette semaine.
Prolongé 2028, l'an prochain on va avoir un moteur Mercedes, fait que... Mm-hmm. Tout n'est pas perdu, tu sais, peut-être aussi. Je pense qu'on a fait des embauches. Je ne sais pas, l'ancien gars de chez Ferrari, là, David Sanchez, au niveau technique, je crois, là, qui est arrivé, ou en tout cas, du moins,
je sais pas,
peut-être un petit peu d'espoir pour l'an prochain.
Mais tu sais, regardez en ce moment, là, Williams, cinquième. Mettons qu'on recule de là 2-3 ans, là, Williams, ça ne faisait même pas un point par année. Keke Sauber, l'année passée, c'était pas Varjeux, on est à 55 points. Tu sais, il y a des choses qui se passent quand même assez intéressantes. Qui va être capable de sortir du lot? Red Bull a ralenti énormément. Mercedes est entre la deuxième et troisième position. Tu sais, Ferrari se maintient quand même. Tu sais, depuis quelques années, on se maintient quand même deux, troisième. Tu sais, c'est pas si pire, mais je pense qu'on a hâte d'être sur la première marche. Puis Étienne l'a dit, une bonne signature, Gasly. Oui, il n'y avait pas le choix, parce que si on ne signait pas Gasly, je pense que cette équipe-là allait nulle part. Ouais. Pour Colapinto, mais ça semble encore... on ne sait pas trop. Semblerait que la F1 jaserait Alpine pour faire garder le don, parce que c'est un beau marché.
Ouais, ben c'est clair, là. C'est un peu comme Perez, tu sais, le marché sud-américain, c'est il y a des gros sous, tu sais, on a Bortoleto, le Brésilien, fait que là, si on a un Argentin, puis là, effectivement,
le Mexicain,
l'Argentine, là, ben eux, ils ont déjà eu un Grand Prix à Buenos Aires, fait que tu sais, il y aurait peut-être possibilité de... En tout cas, effectivement, mais il y a eu un gros désaveu quand même de l'ami Flavio Briatore, là, que finalement, je me suis peut-être trompé. Il y a peut-être un peu trop de pression pour le jeune homme. Puis tu sais, lui, il ne faut pas oublier, là, c'était la plus belle invention après le pain tranché quand il est arrivé l'année passée. Même Red Bull considérait pour le deuxième baquet. Là, une descente aux enfers assez solide pour lui.
Oui.
En plus, il a craché Une Alpine pendant les essais Pirelli. Après la Hongrie, oui. Je pense. Ou, je ne me rappelle plus après quelque chose.
Oui,
ça, mais,
ouais, c'était comme dans, pas longtemps après, début du summer break, là, quasiment. Ouais. En tout cas, dans ces bouts-là.
C'était pas terrible, mais là, je pense qu'effectivement, ils sont comme bon, mais là, ils rapportent beaucoup d'argent. C'est ce que j'aime pas des pilotes payants. Honnêtement, là, c'est le côté que j'ai toujours détesté un peu de ça. On était presque sorti un peu de tout ça. Tu sais, Joe Guan Yu n'était plus là. Puis là, en tout cas, à ma connaissance, c'est pas mal le seul qui reste qui amène une grosse
Il y en a tout le temps.
Ben, Sainz, mais tu sais, Sainz, c'est un bon pilote. Oui, établi depuis longtemps, là, mais on s'entend.
Mais il y en a tout le temps. Hein. Ouais. Tu sais, il y a eu Latifi. Stroll en était un avec Williams à une époque, là. Papa, Stroll en était un. Mazepin en était un. Tu sais, Williams a souvent eu un pilote payant.
Ouais, dans les années que ça allait pas bien. Là. Heureusement, ils ont eu la brillante idée d'engager James Valls. Fait que ça a été un excellent move, je crois.
Et d'avoir puis, Albon et Sainz.
Le fait que ça ait été vendu aussi, pauvre Claire Williams, sa famille, il n'y avait plus une scène à mettre là-dedans. Là. C'est pas. C'est triste.
Des premiers Drive to Survive, quand on voit, ils sont même pas sûrs de starter la saison. Là. Ça part de là.
Il n'y a pas les essais pré-saison. Ils n'avaient pas fait. Il est arrivé à la dernière journée ou une affaire de même. C'est
son cinquième au championnat cette année. T'sais, je veux dire, des fois, à F1, ça tourne vite. McLaren, voilà une couple d'années, ça n'allait pas bien non plus. Là. Je veux dire,
ça revirait vite.
Vous, Fernando était là avec McLaren, Honda. C'était pas évident non plus. Après ça, Honda est allé éclencher avec Red Bull.
Là. L'époque ça du GP2 engine.
Ouais, exact. Fait que, il y a une couple d'affaires qui se sont passées. Puis ça change très, très, très rapidement en F1. Donc, c'est pas perdu pour Alpine. À voir comment ils vont gérer ça l'an prochain avec la motorisation Mercedes, en effet. Puis, tu sais, je veux dire, ça décolle. Fait qu'on verra bien qu'est-ce qui va se passer pour eux. Mais pour cette saison, là, c'est la cave qui
est. On aura Cadillac aussi, en plus, l'an prochain, qui va. Hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça aussi. Puis, une petite nouvelle cette semaine, je pense.
Oui, c'est ça. Qu'on a vu passer, c'est vrai de ça. Je sais que tu voulais en parler parce qu'on a appris que Checo Pérez, que Valtteri Bottas allait être pilote. Puis, peut-être un nom que vous avez déjà entendu, fait quelques essais libres, Colton Herta, qui est un pilote de IndyCar, puis qui va passer par la F2, Jean-Michel, c'est un drôle de parcours.
Ça, c'est capable. Ben, première, c'est le fils de Brian Herta, qui, je sais pas, peut-être ça vous dit quelque chose, des gens qui ont peut-être suivi un petit peu plus la série Card dans le temps de Patrick Carpentier et compagnie, son père a couru justement là-dedans, puis tu sais, Colton, son rêve, c'est la Formule 1, mais écoute, en Indy, là, il y a plein de records à lui. Il a une maudite belle carrière. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça impressionnant de sa part de dire « OK, c'est peut-être ma dernière chance de pouvoir accéder à la Formule 1. Il manque encore quelques points sur la super licence, mais il s'est dit « Écoute, je vais prendre un pas de recul. J'abandonne toute la belle vie que j'ai aux États-Unis, le confort. Je suis dans une grosse écurie. » Je pense qu'il était pour Andretti Global, c'est une des meilleures écuries en IndyCar. Je vais me taper une saison de F2 avec des jeunes loups. Je pense que lui, il a 25 ans dans ce coin-là. Puis avec l'espoir, tu sais, parce qu'on s'entend que Pérez puis Bottas, ils seront pas là, je crois, à 4 ans. Là. C'est plus peut-être pour démarrer la business, puis c'est bien correct de même. Puis, veut pas aussi, Cadillac, il leur faut un pilote américain. Ben il va falloir, puis je pense que c'est le meilleur espoir, mais chapeau, honnêtement, là, de prendre ce risque-là. S'expatrier en Europe, aller faire de la F2, là, c'est. Puis j'ai hâte de voir aussi avec quelle écurie il va se ramasser en F2. Ouais, en F2, il en a des très bonnes, puis il en a des pas bonnes. Fait que j'ai hâte de voir où est-ce que Cadillac vont pouvoir peut-être le placer. Tu sais, on avait cette année le constructeur européen, le Prémant Racing, là, qui ont fait leur début. C'est moyen, je te dirais, mais c'est correct. C'est la première fois, la première année qui arrivait justement de ce côté-là. Mais j'ai bien hâte de... Je trouve ça très hot de sa part, que c'est comme, OK, c'est un parcours compliqué pour arriver à la Formule 1. À ton âge, t'abandonnes tout. Puis non, moi, pour vrai, là, j'ai été super impressionné de voir ça cette semaine. Puis je lui souhaite vraiment, pour vrai, parce qu'on le sait qu'il est extrêmement talentueux. Fait que ça devrait normalement se refléter en F2, parce que là, veut pas, lui, il a énormément d'expérience par rapport aux jeunes qui sont là-dedans, peut-être, puis qui arrivent de catégories inférieures. Mais tu sais, lui, il en a vu de l'action, puis il a couru avec des voitures pas mal plus puissantes aussi. Fait que peut-être que ça va l'avantager, mais tu sais, il y a des beaucoup de jeunes loups qui sont là. J'ai hâte de voir aussi. Là. Je pense que là, cette année, il y a le fils de Juan Pablo Montoya, Sébastien Montoya, qui est là. Je pense qu'il disait que dans deux courses en Italie, en fin de semaine, il avait gagné comme 29 places. Ah, donc, là, c'est pour ça qu'on voit un peu Juan Pablo tout le temps là, à
oui,
la télé.
Il était là.
Il est temps, là, ben c'est ça, il suit son fils. Il suit la carrière de son fils. Fait que s'il y a un coup de volant et une tête de cochon comme son père, ça risque de faire un bon candidat.
Ouais, il devrait être pas pire. Ouais, pour ce qui est de Herta, il a terminé deuxième, là, je crois, au championnat l'an dernier. Il a déjà piloté
mais
en
t'sais...
2015 en Europe. T'sais, je veux dire, ça fait quand même un bail. Il a fait de la F3, a fait de la F3 britannique. Mais après ça, il a suivi la carrière américaine, là, le Indy Light, le Indy Car, puis par la suite. Là,
il a fait le programme.
Il a fait de l'endurance un peu aussi en LMP2. Donc, très hâte de voir de ce qu'est-ce
c'est
que
9
ça
victoires,
va donner.
16 pôles, 20 podiums. Ils disent ici que c'est le plus jeune à avoir gagné une course en 2019 dans l'histoire de l'IndyCar. C'est le plus jeune à avoir fait une pole à Road America en 2018, de IndyCar aussi. Fait que, il y a quand même ces deux records-là à lui.
Je trouve ça dommage, moi, d'une chose, c'est que l'IndyCar, là, ça a l'air vraiment le fun à suivre, mais on suit ça au Québec.
Honnêtement, je l'ai programmé sur mon enregistreur. Là, la plupart des dimanches, quand il y a une course, je pense que c'est rendu à Fox maintenant.
Okay.
C'est eux qui diffusent ça. Puis c'est vrai, honnêtement, que c'est cool à suivre parce que c'est toute la même auto. Fait que, tu sais, le talent fait une bonne différence. Les réglages.
Sur Forza,
aussi,
maintenant, sur Forza, ils ont ajouté les IndyCars. Puis ils vont le faire avec iRacing en 2026, si je ne me trompe pas.
Ça,
comme le jeu NASCAR
jeu
va sortir. Ouais. NASCAR va sortir là, sur Xbox à
mois d'octobre. C'est iRacing qui le fait. Ça me hype bien gros. Puis IndyCar, ben, c'était tout motorsport.com game qui avait acheté les licences. Puis finalement, les jeux aboutissaient pas. Ils se sont écœurés. Puis écoute, ils ont donné ça, je pense, à la meilleure compagnie qui pouvait pas donner ça pour les jeux de course. Là.
Pour
iRacing,
les gens...
ils ont de l'expérience.
Ouais, pour les gens qui connaissent pas trop le sim racing, iRacing, c'est comme le summum. Il y a même des pilotes pendant la pandémie de NASCAR qui allaient
des
courir
pros,
là-dessus. Parce
Verstappen,
que c'est...
il court là-dessus avec son écurie Redline, je pense. Là.
Ouais, Verstappen est là-dessus. C'est un simulateur. C'est pas du... C'est plus un jeu, c'est un simulateur totalement. Écoute, on a-tu fait le tour, Colton Herta, Monaco, on a parlé des casquettes, les tucs, tout ça, demain, Ferrari, McLaren, Max Verstappen.
Je nous parle du fantasy.
C'est, je pense que c'est ce qui nous reste
on
à faire.
Ça, puis le prochain rendez-vous, parce que ouais, comme tu dis, j'ai passé en revue un petit peu tout à l'heure les nouvelles. Il y a Ricardo cette semaine qui annonce officiellement que c'était terminé sa carrière de coureur automobile.
Ouais, il a comme essayé de nous montrer un Ford Racing, là, mais c'était un Ford Raptor. En tout cas, faites une drôle de. Le monde, il pensait qu'il se passait de quoi,
Ouais, non, il se passe que Danny Rick, je pense, c'est finito.
Finito, les amigos.
Bon, voyons. Ligue, paddock. Ok, bon, il y a eu quelques petits. En tête, ça bouge pas. Hein. C'est Dan Simard, Luc Maxime. C'est à peu près 65 points d'écart entre les deux. La lutte est assez forte. Marie-Ève, qui lâche pas. Troisième. Mais, tu sais, on est quand même à 200 points de Dan Simard qui est premier.
Marie-Ève est là.
Ça sera pas facile. Mais écoute, Marie-Ève, troisième, c'est hot. Elle a dépassé Pat Fillon qui est descendu 4. Le gars qui court s'est monté 6, P.O. Gagnon. 5, P.O. Gagnon descendu 6. 7 et 8e, on retrouve les deux Jean-Michel, le Monim 7, et moi je suis monté 8, ça a bien été pour cette course-là. Maxime Arsenault, monté 9, Christine Laramée, 10. Fait que quelques petits changements. Cette semaine, je m'en voulais un peu parce que je suis allé prendre, j'ai changé l'asse. Ben, finalement, ça n'a pas été si pire. J'ai changé Lawson pour Sainz. Ça fait que finalement, c'était pas mal l'un dans l'autre.
C'est
ça qui m'a avantagé bien en fin de semaine. Puis je pense que j'ai changé aussi les RB pour Williams. En tout cas, finalement, ça a bien été. J'ai eu une belle fin de semaine pour ça. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas été faire des petits tunings là-dessus. D'ailleurs, je pense qu'il me reste encore tous mes chips pour la fin de la saison.
Yeah,
peut-être qu'on pourra faire un coup d'éclat. Fait qu'écoute... pense qu'on a fait le tour de l'Italie. Là, on s'en va dans un Grand Prix qui normalement était couru en début de saison, avant le Canada, puis avant Monaco, puis avant Barcelone. Ça va être spécial de le voir au mois de fin septembre, de fin de semaine du 19-20-21, je crois.
Exactement, Jean-Michel, pour le Grand Prix de Bakou, donc en Azerbaïdjan, ou en Azerbaïdjan, devrais-je dire en français, pour l'Europe, c'est terminé, hein? Ouais, comme Gaëtan, c'est bon rire. Hein?
Fini la manche européenne.
Ouais, donc fini la manche européenne, donc le 17e Grand Prix de la saison, du 19 au 21 septembre. Par la suite, on s'en va à Singapour, ce sera du 3 au 5 octobre, et on s'en vient aux États-Unis, donc à la mi-octobre, du 17 au 19. Mais notre prochain rendez-vous, là, normalement, devrait avoir lieu le 22 septembre pour ce qui est du paddock. Un gros merci d'avoir été là ce soir. Je vous rappelle, 9 septembre, midi, on lance les casquettes et les tucs en précommande. Venez remplir le Forms. On va voir. Là, d'après moi, on va faire de la belle petite livraison. On va être bien, bien content de vous donner de casquettes. Ben, d'en donner quand vous les achetez. Là.
de vous voir. De voir ce modèle-là en vrai. Là, il est vraiment un bon choix.
Un gros merci d'avoir été là ce soir, puis on se retrouve donc le 22 septembre pour le prochain épisode du Paddock. D'ici là, ben, je vous souhaite un bon rattrapage de séries télé, parce que là, c'est là que je m'en vais. Là. Ça commence.
Ça commence en force, gros lundi soir.
Un gros lundi soir, on s'en va écouter les armes, Dumas. Il y a Antigang aussi qui est commencé à soir. Écoute.
Avant le crash, puis il y a des séries à nouveau aussi qui commencent. On va aller trouver nos blondes, puis on va faire un peu de rattrapage.
Ouais, parce que là, on vient de défoncer d'une minute le temps. Moi, à 19h, il faut que tu sois en haut. Là.
C'est correct.
Il y a le ministre des Finances et le ministre du temps aussi. Passez une excellente soirée à vous tous, puis on se retrouve d'ici deux semaines. Et suivez nos actualités, bien sûr, sur ma page Facebook, Le Paddock Podcast. Stéphane, salut.
Salut.